Julia Fischer interprète le 17 septembre dernier dans le grand auditorium de Radio France à Paris du concerto pour violon en ré majeur de Johannes Brahms aux côtés de Christian Macellaru et de l'Orchestre National de France. Une épure qui a manifestement plu au public qui en demande. Rien de tel pour calmer les chevaux qu'un petit bar, Sarabande, extraite de la deuxième partita en ré mineur, BWV 1004. Julia Fischer qui est généreuse et qui ne craint pas de nous faire un petit caprice. Vous aurez sans doute reconnu Paganini et la signature virtuose de ses caprices pour violon seul. Mais duquel s'agissait-il ? Eh bien, du 13e en si bémol majeur, ultime cadeau de la violoniste allemande Julia Fischer, au public rassemblé le 12 septembre dernier dans le grand auditorium de Radio France à Paris. Public qui s'apprête maintenant, comme vous et nous sans doute, à écouter pour la première fois la musique d'Elsa Barène, dont Christiane Macellaru et l'Orchestre National de France ont choisi de nous offrir la deuxième symphonie. Elsa Barène, compositrice française, née à Paris en 1910, est morte à Strasbourg en 1999. Pour faire un peu mieux connaissance avec la musique que l'on va entendre et celle qui tient le crayon, rien de tel que de se plonger dans la lecture de l'excellent programme. La notice est signée Cécile Quenet et Mariette Thom. Quand Elsa Barène compose sa deuxième symphonie en 1938, nous apprennent les deux femmes, l'Europe est aux portes de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie, qui a déjà annexé l'Autriche, lorgne désormais sur la Tchécoslovaquie. Une semaine après la création de cette œuvre par l'Orchestre national, la France signe les accords de Munich, abandonnant les Sudètes aux troupes de Hitler. Un contexte tout sauf anecdotique pour la jeune compositrice, sur le point d'adhérer au Parti communiste. Et qui va sous-titrer sa symphonie « Voïna », soit « La guerre » en russe. « Je l'ai appelée « Voïna » parce que c'était la guerre », dit-elle. En 1938, on savait bien qu'il y aurait de la guerre. Il aurait fallu être fou pour ne pas s'en apercevoir, confiera la musicienne bien des années plus tard. Barène écrit sa symphonie peu de temps après avoir reçu la commande d'une œuvre symphonique par arrêté du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du 5 mai 1938. Ce programme de commande est un événement dans le milieu musical. Jamais l'État n'avait financé la composition en dehors d'occasions spécifiques. Et cette première édition s'adresse également à des compositrices. Elsa Barène choisit d'écrire une symphonie et fait appel à un grand orchestre mettant en valeur les bois. Ces trois brefs mouvements utilisent des formes traditionnelles de la symphonie classique en les condensant. Sa symphonie n'est cependant pas néoclassique au sens où elle pasticherait ou reprendrait avec distance des éléments classiques. Le genre est utilisé ici pour sa dimension dramatique. Le programme qui l'accompagne, sous-titre et titre du mouvement lent, apparaît d'ailleurs dès la première écoute, soit la guerre pour le premier mouvement, la mort et le deuil pour le deuxième et enfin le retour à la vie pour le troisième. On passe, si vous le voulez bien, l'analyse musicologique pour s'intéresser à la création, toujours sous la plume conjointe de Cécile Quenet et de Mariette Thom. La deuxième symphonie connaît des débuts chaotiques. Après quelques auditions à la radio, en 1938 et 1939, elle n'est plus programmée pendant l'occupation, mais trouve enfin son public à la Libération. Elle est notamment donnée au Festival de la Société Internationale de Musique Contemporaine à Londres en 1946, où elle rencontre un très grand succès. Le parcours de sa compositrice pendant la guerre n'y est pas étranger. Résistante, Elsa Barène s'est notamment engagée au sein du Front National des Musiciens, section musicale du groupe de résistance du Parti communiste français. Cela n'échappe pas aux critiques contemporains, tout comme l'aspect prophétique de cette œuvre qui prédisait la guerre un an avant le début du conflit. À la fin des années 1940, Elsa Barène bénéficie d'une certaine renommée. Films, pièces de théâtre, publicités, radio, elle cumule les commandes, ce qui lui permet de vivre de son art. Elle collabore ainsi avec Jean Grémillon, Jean-Paul Le Chanois et Louis Daquin en cinéma, ainsi que Charles Dullin, Jean Mercure et Jean-Louis Barrault pour le théâtre. Avec d'autres musiciens communistes, elle prône une musique progressiste, accessible et proche des préoccupations du peuple. En 1949, elle quitte le PCF, sans doute pour des raisons idéologiques. Plusieurs amis et relations professionnelles se détournent alors d'elle, cessant de lui commander des œuvres. Elle accepte un poste de professeur de déchiffrage au piano au conservatoire en 1952. En 1969, elle remplace Olivier Messiaen à la classe d'analyse. Professeure dévouée et passionnée, elle quitte le conservatoire en 1974 et termine sa carrière en tant qu'inspectrice des théâtres lyriques de 1972 à 1975. Entre 1950 et 1970, son style s'est transformé. Elle a trouvé des sources d'inspiration dans la spiritualité orientale qui la fascine, s'éloignant ainsi de la tonalité et usant d'un langage plus complexe. Durant les 30 dernières années de sa vie, Elsa Barène ne compose presque plus. Lorsqu'elle meurt en 1999, 1939, elle laisse derrière elle plus de 150 opus, de la symphonie à la musique de chambre, en passant par l'opéra, le ballet, les mélodies et la musique chorale, fermée les guillemets. Voici donc la musique d'Elsa Barène, sa deuxième symphonie de 1938, portée par Christiane Mathieu-Larroux et l'Orchestre National de France.
Thank you. Thank you.
deuxième symphonie de la compositrice française Elsa Barène, née en 1910 et disparue en 1999. Elle nous était servie par Christiane Matché-Larroux et l'Orchestre National de France. Un concert donné le 12 septembre dernier au Grand Auditorium de Radio France à Paris et proposé ce soir à l'enseigne de votre soirée Trans-Europe sur Espace 2. Soirée qui se poursuit avec une autre page française, nettement plus connue celle-ci, les images pour orchestre de Claude Debussy. Les images, c'est avec le ballet Je, la dernière œuvre symphonique menée à bien par Debussy. Il songe d'abord à deux pianos avant d'opter pour l'orchestre. C'est Iberia qui, la première, sort de l'œuf en 1908. Iberia, c'est bien sûr l'Espagne, mais en aucun cas des clichés de voyage, des espagnolades. On est là dans le registre du folklore imaginaire. Iberia s'articule elle-même en trois tableaux. Il y a d'abord « Par les rues et par les chemins », puis « Les parfums de la nuit » et enfin « Le matin d'un jour de fête ». Mais pour aller dans l'ordre, on commencera avec les gigues, composées sur la base de souvenirs d'Angleterre, et on terminera avec les rondes de printemps, basées sur deux chansons enfantines, « Nous n'irons plus au bois » et « Dodo l'enfant d'eau ».
Thank you.